de manière à ce que nous puissions te servir de manière qui te glorifie. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, nous te prions qu'ils t'acceptent pour leur salut. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, qu'ils puissent te comprendre, nous te remercions de nous avoir donné ton Fils Jésus. Et c'est dans son nom que nous te commettons, que nous te remettons ce temps. Bonjour. J'ai voyagé cette semaine. J'étais en Irlande du Nord pour aller voir la maison de Dave, voir sa famille spirituelle, son église. Donc j'ai sa nation, j'ai vu beaucoup. Donc quelque chose que je voudrais apporter de cela ici, comme Jasmine qui parlait de Zacchaeus qui était désespéré quand j'étais à Londres en octobre dernier. C'était bien de me rappeler que j'étais pas seule. Parfois, quand on essaye d'être en France, cette marche spirituelle, on peut être désespéré de penser qu'on est seul. Mais à Londres, j'ai vu d'autres. Et aussi, encore plus, dans l'Irlande du Nord. Il y avait 50, aujourd'hui il y a 50 qui sont dans ce parc là-bas, qui prient pour nous, et qui prient aussi pour nous de chaque semaine. Il y a certaines choses que j'ai expérimentées là-bas. On est resté dans une maison de sécurité. Maison de sécurité, ça veut dire là où les gens ont besoin d'être à l'abri. Donc des gens qui ont été maltraités, des femmes maltraitées. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a cette maison. C'est une maison derrière une autre maison. Mais il y a beaucoup qui ne savent même pas que c'est ça. Donc c'est là où on met les femmes qui ont été battues et qui sont prêtes à aller au tribunal, donc qui sont protégées. Donc c'est un petit ministère jusqu'à que ce gars a créé et il a le cancer. Et là, ça fait déjà 3 ou 4 ans, il est en train de mourir. Mais à travers sa mort, à travers cette maladie mortelle, il est en train de réaliser qu'il ne peut pas continuer le ministère et qu'il doit le donner à quelqu'un d'autre pour que ce ministère continue. Et il réalise que ma vie ne m'appartient pas, elle lui appartient, et il faut que je l'utilise pour qu'elle compte pour lui. Il y a aussi les ministères qu'ils font dans les rues qui s'appellent la zone de sécurité. C'est les enfants, donc les adolescents, les lycéens qui vont et en fait il y a beaucoup d'adolescents qui sont dans la drogue, dans l'alcool, et ils invitent ces jeunes à venir, et ils sont là pour discuter avec eux, pour les encourager. Ils sont en contact par radio aussi avec l'église pour savoir exactement ce qui se passe. Comme ça, il y a un groupe de prière à l'église et les autres qui sont dans la rue pour faire le ministère auprès de ces jeunes. Et la dernière chose que je voudrais partager avec vous, dernière histoire. Il y avait un homme qui était à la retraite des hommes. Et qui avait un très très bon métier, très bon travail. Et la dernière retraite, le Seigneur lui a parlé et lui a demandé d'arrêter son travail et de se mettre dans le ministère. Donc il a arrêté son travail parce qu'il le prenait beaucoup, et maintenant il est plus flexible dans ses horaires. Et il est parti en Colombie faire du ministère. Donc on passe de la désespération, on a besoin de Jésus, et jusqu'à la zone de sacrifice où quoi que le Seigneur veut prendre de nous, on lui offre.
This morning in this region.
Ici, c'est peut-être... Peut-être ce matin, en fait, c'est un des groupes les plus importants de cette région de chrétiens. Et parfois, vous vous sentez seul, mais que vous sachiez que le Seigneur travaille partout. Priez pour ces personnes où Dave vient de cet endroit, de cette église en Irlande. Le dimanche prochain, il sera à nouveau... Donc priez pour Dave qui va parler la semaine prochaine dans son église. Donc aujourd'hui on va, si vous êtes endormi depuis la dernière année et demie, vous ne savez qu'on n'est pas dans le livre de Luc, mais maintenant nous sommes dans Luc 17. On va lire le texte, mais on va prier d'abord. Père, nous te prions pour ces dix versets que nous allons étudier ce matin, que tu sais, que tu dis que toute écriture est ici pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous encourager, pour nous donner des reproches si nécessaire. Donc, quoi que ce soit que tu aies pour nous ce matin, nous voulons le recevoir, nous voulons le prendre. Et que, Seigneur, que tu aies assez soin de nous pour te révéler à nous à travers ta parole. Donc, nous te commettons cette étude pour ta gloire. Luc 17, versets 1 à 10. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite, mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi un souper, sains-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, vous dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait tout ce que nous devions faire. » Et ceci est la parole de Dieu. Donc on a quatre vignettes différentes ici. La première est de faire attention de ne pas mettre scandale, obliger les autres à pécher. La troisième est pour augmenter la foi. Et la troisième est le travail qui nous est dû, qu'on doit faire. Le contexte, on répond à la question majeure, quel genre de disciple? Ici, ils vont nous donner quatre aspects. Hier, je regardais à ces vignettes pour étudier un peu plus dans l'avion. On va regarder la première. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Donc, tout d'abord, on observe que la tentation, les scandales, ils vont être ici pour sûr. C'est absolument... Ça ne sert à rien de demander à Dieu d'enlever toutes les tentations de nos vies. Ça ne va pas se passer. Même si vous viviez dans une bulle, si votre esprit travaille, les tentations sont là et sont bien vivantes. Elles peuvent venir de l'extérieur, elles peuvent venir de l'intérieur. C'est un donné que les tentations existent. Le Scandale en grec. Et en fait, scandale, c'est la définition en grec, c'est un piège qui est prêt à attraper une proie avec une ficelle. La ficelle est là pour tirer et fermer le piège sur la proie. Donc on est là et la définition de ce passage, c'est on n'est pas là pour causer la tentation aux autres et mettre un appât devant les autres. Le jugement va venir pour celui qui met cet appât devant les autres. Les malheurs. Malheur parle de terreur pour ceux qui le font. Les tentations sont ici. Les scandales sont ici. Et si quelqu'un est derrière ça, ce sera malheur à cette personne. Il vaudrait mieux pour cette personne qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on jeta cette personne dans la mer. Et en Irlande, il y a beaucoup de mer, il fait froid, et on passait avec le ferry le long des falaises. Et il y a beaucoup d'eau là-bas. Et il vaudrait mieux qu'on mette à son cou une pierre de moulin. Vous connaissez ce qui se passe dans le sud de la France. C'était une pierre ronde, énorme. C'est pas la noyade qui va vous tuer, c'est probablement cette pierre qui va casser votre cou. Et vous allez droit au fond de la mer. Donc en fait, il vaudrait mieux qu'on vous casse le cou avec une meule de moulin que si vous scandalisiez les enfants. Pour ceux qui enseignent la Bible, quand vous dites que la parole de Dieu dit quelque chose, vous avez dans votre intérêt de prendre les choses sérieusement parce que c'est Dieu qui le dit. Quand vous utilisez la Bible, soyez sûr que vous étudiez la Bible et que vous faites ce que la Bible dit, parce que nous sommes responsables de la manière dont nous vivons avec les autres aussi. Il vaut mieux mourir plutôt que d'influencer quelqu'un à pécher. Fermez votre bouche plutôt que de tenter quelqu'un. Il vaut mieux mourir que de causer les petits à pécher. C'est probablement, on ne parle pas d'ici des enfants, mais simplement quelqu'un qui n'a pas encore une maturité spirituelle. Il vaut mieux mourir que de les entraîner dans le mauvais chemin. Si vous regardez les écrits de Paul dans le Nouveau Testament, chacun des livres de Paul parle des faux docteurs, des faux enseignants. Au premier siècle en Palestine, c'est la même chose maintenant en 2013. On a tendance à tomber dans le piège de la tolérance qui existe aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut jeter la pierre sur les autres églises qui font les choses un peu différemment. Mais quand ils passent les limites, quand c'est Jésus plus autre chose, ou quelqu'un dit, il y a différents chemins pour arriver à Dieu. C'est là, à ce moment-là, on fait la distinction. On le souligne avec gentillesse, avec amour, mais on le souligne quand même, on montre, on expose. Mais faites attention. Faites attention parce que c'est petit pour être scandalisé. Donc faites attention de ne pas entraîner les autres à tomber dans le péché. Souvent on lit la Bible et on pense, oh ça c'est ça va ça s'applique à elle, à ce gars. Mais en réalité, faites attention à vous-même en premier. Soyez sûr que votre cœur ait nettoyé votre propre self avant que vous essayiez de nettoyer les autres. Si vous avez fait l'étude comme il faut, vous l'avez appliquée à votre cœur et ensuite vous pourrez savoir comment aider les autres. La deuxième vignette. Okay, ne causez aucun péché de versets 1 à 2. Mais maintenant, si quelqu'un d'autre cause un péché contre vous, vous allez pas vous moquer de lui ou donner des excuses, mais vous allez le reprendre. Vous n'allez pas dire « Oh, mais c'est la manière dont il est ». Vous allez le reprendre, c'est notre travail. Nous sommes supposés être des gens de la parole de Dieu et on est là pour s'aider les uns les autres, parfois en corrigeant un reproche. Et par exemple, mais je suis désolée, mais cette plaisanterie est vraiment de mauvais goût. Et c'est dur hein, de confronter les gens. Parce que ça amène de l'attention. Oh, tu es plus saint que moi. Tu crois que tu es plus spirituel que moi. Tu crois que tu n'utilises jamais ta bouche pour dire des choses qui ne vont pas. Bien sûr, je le fais. Personne, en fait, n'est complètement bien. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se rappeler les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais reprocher et remettre les choses, montrer les choses qui se passent à Andrew, et demain, il fera la même chose avec moi. Mais on n'a pas le droit de continuer à les laisser marcher dans le péché. Vous pouvez dire, vous comprenez, la Bible dit ça, mais toi tu fais ça, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une explication? Peut-être il n'a pas d'explication. Est-ce que je peux t'aider à reprendre la voie droite du Seigneur? Les chrétiens ne sont pas parfaits, ils ne seront jamais. En tout cas pas de ce côté du ciel. On a besoin de l'aide des autres pour nous montrer quand ça ne va pas. C'est pas vraiment le plus difficile, mais le plus difficile, c'est souvent le pardon. Donc on passe plus de temps à essayer de pardonner qu'à faire des reproches. Donc si quelqu'un en Christ, un frère ou une sœur qui pêche contre toi et qui se repente, vous devez lui pardonner. Oui, je l'ai déjà fait. Mais les lois, les attentes rabbiniques, c'était 3 fois. Si quelqu'un vient 3 fois, voilà, ça va. Il y a une limite au pardon. Mais Jésus, lui, amène ça à une différente dimension. C'est un nouveau royaume. Il prend la loi et il la promet. Il a cette promesse, il l'accomplit lui-même. Mais il l'étend aussi, il l'élargit. Et il dit qu'en fait, pas 3 fois, mais 7 fois. Si quelqu'un vient, pêche contre toi, il vient 7 fois vers toi pour se repentir, 7 fois tu lui pardonneras. 7 fois en 24 heures, vous rigolez? Vous ne vous rendez pas compte? Mais au bout d'un moment, moi j'en ai marre, j'en peux plus. À quel moment est-ce que j'abandonne? À quel point je m'endurcis contre cette personne? Et la meilleure question, en fait, c'est à quel point Jésus, lui, abandonne avec nous? Et à quel point il dit, tu sais, j'en ai vraiment ma claque maintenant. Celui qui ce péché qui revient sans arrêt, qui montre sa tête sans arrêt. Vous savez que c'est pas bien, mais vous y allez parce que vous y retournez parce que ça vous amène un réconfort un peu bizarre et tordu, de la force. Mais vous savez ce péché que vous refaites sans arrêt. 7 fois par jour, c'est en fait probablement assez moyen. Combien de fois est-ce que Jésus nous pardonne? Autant que tu le fais et autant que tu reviens vers lui. Il te reprend avec lui, il te pardonne et il te restaure. Vous devez être un peuple de Dieu, celui qui est comme le roi. Et vous êtes probablement en train de penser à quelqu'un maintenant, que cette personne était l'exception à la règle. Mais non, cette personne n'est pas l'exception. Dieu a permis qu'elle soit dans votre vie pour vous apprendre une leçon, pour apprendre à pardonner. Ce n'est même pas une option. Donc, pardonne. C'est pas une question de si je dois ou si j'ai la force de le faire. Non, ça n'a rien à voir, c'est tu dois le faire. Est-ce qu'il y a une limite au pardon? Non, le chrétien doit pardonner. Donc ne cause aucun péché, mets-toi en opposition en l'exposant. Et probablement vous vous dites, Seigneur, faut-tu de nous demander l'impossible? Donne-nous plus de foi. Il dit au verset 5, c'est pas des gens qui viennent une fois de temps en temps à l'église, qui lisent la Bible une fois de temps en temps, ce sont les apôtres ici qui sont avec le Jésus. Ces personnes qui ont vécu la vie avec le Seigneur et qui ont vécu des morts horribles de martyrs, except pour gens qui ont essayé de tuer et puis qui finalement est décédé en exil. Et en fait, les apôtres demandent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le problème, c'est pas que cette personne n'a pas besoin de recevoir votre pardon, c'est peut-être parce que votre dépendance du Seigneur a besoin de grandir, votre foi dans le Seigneur a besoin de grandir. Il faut que nous soyons désespérés d'être comme lui, non pas être contents d'être comme vous. Et si je regarde autour de moi, je peux me dire, ah, mon travail est facile, j'ai une note moyenne, ça va. Si on pense comme ça, avec cette perspective, la vie n'est pas si difficile. J'ai été entraîné, formé professionnellement d'être pasteur. Et je peux me comparer à vous, mais Jésus doit être ma comparaison, pas vous. Jésus est mon seul exemple. Donc si je me compare à ce que le Seigneur, à ce que Jésus me demande d'être, alors à ce moment-là, le cri de mon cœur, c'est augmente ma foi parce que je n'ai pas encore les choses parfaitement en règle en moi. Ce péché revient dans ma tête, il y a encore de la malice. Je marche encore vers la tentation. Et c'est la personne qui est devant vous et qui vous enseigne. Personne n'a ses actes parfaitement ensemble. Et c'est pour ça qu'on crie au Seigneur, augmente-nous la foi. Il y a un chant écrit par des Indiens. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce chant. Et le chant, c'est « J'ai décidé de suivre Jésus ». Tout le monde connaît ce chant. J'ai décidé de suivre Jésus. Aucun retour en arrière. Ce gars a écrit ce chant très très tôt après sa conversion. Toute sa famille a accepté la foi en Christ et le chef indien avait une foi différente. Et un jour, il en a eu marre de cette famille chrétienne qui essayait d'aider tout le monde. Et un jour, il les appelle sur la place publique et il leur dit, si vous ne renoncez pas à votre foi, vous allez tous mourir. Et le père ne savait pas quoi faire. Alors le père a commencé à chanter ce chant. J'ai décidé. Donc le chef lui a dit, ok, on vous donne une autre chance pour sauver votre vie. de suivre Jésus, il continue à chanter. Et lui ont donné trois chances de sauver leur vie. Il continue à chanter. Et d'une manière horrible, toute la famille est morte ce jour-là. Mais il y a eu une implantation de foi qui a été placée dans le cœur de ceux qui observaient. Alors, ça lui a coûté la vie de suivre Jésus. Ça lui a coûté non seulement sa vie, mais la vie de sa famille. Ça vous coûtera probablement pas ce genre de coup. Mais le chef a vu que cette foi qu'il avait, c'était pas une foi normale, c'était surnaturel. Donc il a rappelé la ville et il a confessé lui-même sa foi et son engagement à Jésus. Et ça a commencé un réveil dans toute la région. Tout ça parce qu'un jour, un gars qui n'avait pas vraiment les réponses à crier à Dieu, augmente ma foi, rends-moi plus comme toi. Souvent, oui, comme chrétiens, nous sommes devant des moments impossibles et on peut dire, je ne peux pas faire ça à mon travail, je ne peux rien faire avec mon époux ou mes enfants sont trop au-delà de ce que je peux gérer ici à la maison. C'est impossible. Donc, je me retourne sur mes propres forces. Et vous avez raté, en fait, tout. Là, vous aviez l'opportunité de vous dépendre complètement sur le Créateur de l'univers et vous ne l'avez pas choisi. Mais si vous criez à Dieu et vous dites « Augmente la foi », au lieu de, si le jour où vous choisissez de crier à Dieu pour recevoir sa force, au lieu d'essayer de régler vos problèmes par vos propres forces, le moment où vous réalisez que Dieu est le Dieu de l'univers, ça va tout changer. Mais quand vous vous limitez à vos propres limites, vous allez vous retrouver à la fin, presque toujours, à la fin de vous-même. Et Jésus répond, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, c'était considéré le grain le plus petit, c'était considéré celui qui pouvait voir de leurs propres yeux et tenir une centaine de ces graines dans la paume de leurs mains. Mais si vous aviez la foi, notre besoin n'est pas la quantité de foi, on a besoin juste d'un tout petit peu de foi, même de la grandeur d'un grain de moutarde. Vous pourriez dire à ce sycomore, a priori il devait être près d'un sycomore, et vous pourrez lui dire « Déracine-toi et plante-toi dans la mer ». Cela, en fait, n'a aucun sens, mais c'est typiquement de Jésus, des illustrations bibliques qu'on voit. Imaginez ces arbres qui poussent au bord de la côte irlandaise et qui ont des racines très très profondes. Dans Bangor, on a vu un arbre énorme qui était tombé, et derrière, le trou qu'il allait laisser derrière était comme si un météorite avait été tombé sur la Terre, un cratère énorme. Et donc, d'après Jésus, cet arbre serait déraciné et serait planté en plein milieu de la mer. Ça n'a aucun sens. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Il dit, si vous avez un tout petit peu de foi, vous pourriez faire des choses qui, au niveau des habiletés humaines, ne représentent, qu'on ne comprend pas, mais avec Dieu, vous pouvez tout faire. Notre besoin, ce n'est pas la quantité de foi, on a besoin d'un petit peu seulement. C'est simplement de la posséder. Notre besoin, c'est de posséder la foi et d'agir par la foi. Beaucoup d'entre nous ont la foi, mais nous devons agir un peu plus par la foi, plus souvent. Nous appartenons à un royaume qui n'est pas ici. Nous sommes le royaume du Dieu éternel, du Dieu omnipotent. Avec son amour qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre. Et on ne vous demande pas de demander des choses idiotes. Mais si vous comprenez que vous avez été appelé par Dieu pour faire des choses qu'il vous demande de faire, à ce moment-là, donc, quand vous vous retrouvez dans des impossibilités, vous réaliserez qu'il peut vous donner la possibilité de faire ça. C'est la foi. C'est notre foi. Nous devons nous engager à une vie de foi. Pas des facts et des fictions. Je sais, et ça paraît bien de protéger mon ego, de me protéger contre votre invasion sur mes droits. Mais la foi, elle demande de servir Dieu et de servir les autres. Et à ce moment-là, la foi travaillera au travers de tout ça. Donc, ne cause pas le sin, contracte le péché. Ne cause pas le péché, contracte le péché. Donc, si jamais vous arrivez à agir avec cette foi comme un grain de moutarde, à ce moment-là, on voit le protocole du serviteur. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs. Donc il sert comment? En travaillant dans la maison et dans les champs du maître. Si vous êtes la femme de maison et que vous faites le nettoyage, la cuisine, vous travaillez dans les champs, travaillez à la maison. Quand nous avions nos enfants, qu'ils étaient tout petits, enfants, on n'arrivait jamais à s'attabler à la même table ensemble et avoir un dîner chaud. Nous mangeions toujours froid parce qu'il fallait toujours passer les biberons et on a l'impression qu'on a eu 40 ans de ça, mais en fait, on n'a eu que 5 ans. Mais ça paraissait une grande période, longue période. Donc ce serviteur travaille toute la journée, il arrive à la maison et il sert. Il sert dans la maison de son maître. Alors, est-ce qu'un maître lui dirait « Viens, assieds-toi à table ». Pour que je puisse te servir. Non, c'est le contraire. Donc il lui dira plutôt prépare-toi à me servir. Il a besoin. Il aura sa propre nourriture et son propre repos quand le maître aura été servi, pas avant. C'est là la parabole est la position du serviteur, de celui qui a été racheté par son maître. De nos jours, c'est quelqu'un qui serait un maître ingrat, parce que on a cette attitude souvent de penser que si je viens à votre église, vous devriez être reconnaissant. Si mon nombre se pose sur ce bâtiment, vous devriez être reconnaissant. Et dans ma maison, quand je sers, je le fais avec quelle motivation? Pour être reconnu, ou je le fais de mon cœur pour servir les autres? Est-ce que je le fais pour recevoir la gratitude des autres? Mais je ne le fais pas avec le bon cœur. comme mari, je dois être le pasteur, le protecteur, le leader de ma famille. S'il n'apprécie pas, est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Est-ce que j'ai le droit de faire la grève demain? Ah, désolé, pas de train. Personne ne m'amène à l'école, mon père est en grève. Non, c'est ma position. Et voici l'évangile. Qu'est-ce qu'on fait de notre salut? Avant notre salut, on était en rébellion complète, on fuyait loin de Dieu, on lui montrait le poing, on cherchait partout sauf lui, on ne voulait rien avoir avec ses voies, on ne voulait pas son fils, on ne voulait pas son sacrifice, on le voulait sur nos termes à nous. Et Dieu, doucement mais sûrement, est venu vers nous. Et nous a montré la vérité. Et nous a attendri le cœur, nous a demandé de revenir vers lui, afin que nous puissions mettre notre foi pour celui qui est mort pour mes péchés, afin que je ne meure plus. Et maintenant je le sers. Et un jour, pas aujourd'hui, un jour, j'espère me tenir devant lui. Et il ne va pas dire merci. Pourquoi il dirait merci? Il a tout fait pour moi. Mais ce qu'il promet, c'est de dire, si je le fais comme il faut, bon travail, bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie de ton maître. Viens et admire cette éternité merveilleuse que j'ai préparée pour toi. Viens manger à ma table, viens et communie avec moi, reste avec moi. Il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de peine, plus de larmes. Ce sera que la gloire, sa gloire. Je ne travaille pas, je ne suis pas le père de mes enfants pour recevoir des merci. On travaille pour le Seigneur. Je vous travaillerai pour le remercier pour ce qu'il a fait pour moi en Jésus-Christ. Il n'y a aucune reconnaissance spéciale pour ceux qui font leur travail. C'est notre devoir. Il faut qu'on sorte de cette mentalité où on me doit tout. Parce que si vous venez dans cette église avec cette mentalité, ça risque de ne pas arriver malheureusement pour vous. Mais ça ne devrait pas être votre motivation. Donc, vous aussi, quand vous avez fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait tout ce que nous devions faire. Nous ne causons pas le péché, nous arrêtons le péché, nous engageons à la foi. En tant que serviteurs, nous avons fait seulement ce qui nous était demandé, notre devoir. Donc considérez cela être votre devoir, de servir le Seigneur. Vous avez déjà essayé de remercier un vétéran d'une grande guerre ou un pompier qui a arrêté un incendie? Et en fait, il ne l'apprécierait pas parce qu'il dirait que c'était leur devoir de faire ça. Et nous, de la même manière, on fait ça pour une cause nettement plus grande. J'ai décidé de suivre Jésus, comme le chant le dit, et ne pas retourner en arrière. Non, pas de retour en arrière. Et même si personne vient avec moi, je continuerai à le suivre. Je ne retournerai pas en arrière. Je ne retournerai pas en arrière. Père, nous te remercions comment tu nous montres à travers ces quatre vignettes la compréhension de ce que la vie d'un disciple doit être, que nous sommes appelés à être à toi. Père, que nous sommes appelés à ne pas causer le péché, mais à s'opposer au péché. Et comme on doit aussi complètement pardonner tout notre cœur, la seule manière que ce soit possible, c'est pas avec notre chair, parce que notre chair a tendance plutôt à haïr. Mais nous avons besoin que tu augmentes notre foi. Et à la fin de la journée, si on veut survivre avec moins de péché que le jour d'avant, aide-nous à ne pas recevoir des louanges humaines, mais de réaliser que c'est notre travail, notre devoir de te servir. Et un jour on sera avec toi et ce sera merveilleux ce jour-là. Au nom de Jésus, nous te prions.